Chapitre 2. Agatha Raisin n'était pas mécontente de cet événement inattendu. Non seulement elle ne nourrissait plus le moindre rêve, ni la moindre obsession, au moins quand elle faisait une fixation sur un homme, elle oubliait la piètre estime qu'elle avait d'elle-même et se lovait dans un nid douillet de fantasmes arc-en-ciel. Mais en plus, elle se sentait seule. Son ex-mari, James Lacey, rédacteur de guide de voyage, était quelque part à l'étranger, et son ami, Sir Charles Fress, également par monts et par vaux, lui manquait. Bien sûr, elle pouvait compter sur l'amitié indéfectible de Mrs. Blocksby, mais cette femme était une véritable sainte, et Agatha avait envie de prendre du bon temps et de se livrer à toutes sortes de frasques, de préférence au lit avec un Apollon. Sans vraiment se l'avouer, cela va de soi, car elle se considérait comme une féministe. Agatha n'avait encore jamais visité Sumpton Harcourt, l'un des nombreux villages des Cotswolds, tapis au creux des coteaux boisés, loin des circuits touristiques. Le jour s'était assombri. Agatha observa Molly au volant de sa voiture et se demanda si c'était une vraie rousse. Elle était sans conteste incroyablement glamour pour une femme de pasteur. Tout à coup, Molly s'arrêta et dit « Regardez, l'arbre des sorcières !» Tout autour, le ruban jaune installé par la police claquait au vent. Des nuages noirs traversaient le ciel. Le frottement de deux branches produisit un craquement étrange. Agatha ressentit un frisson d'excitation. Il n'y avait pas meilleur décor pour un meurtre que cet arbre sinistre. L'église Saint-Edmund datait de la période romane tardive, mais une extension de deux étages avait été ajoutée au XIIIe siècle, puis l'aile nord au XIVe. Dans sa tour carrée, sonnait pas moins de 10 cloches. À côté, s'élevait le presbytère construit sous le règne de Georges III. D'ordinaire, les bâtisses du XVIIIe siècle sont magnifiques. Mais il était bien difficile de distinguer les lignes architecturales des façades du presbytère envahies par le lierre. À la fin du XIXe, l'épouse d'un pasteur, passionnée par tout ce qui avait trait au Moyen-Âge, avait fait remplacer les fenêtres simples par des fenêtres à meneaux, limitant encore plus l'entrée de la lumière du jour. Molly ouvrit la porte et précéda Agatha et Mrs. Blocksby dans le bureau. « Installez-vous, je vous en prie. Ces fauteuils n'ont rien de confortable, mais c'est la seule pièce où il fait bon dans cette maison. Partout ailleurs, on se croirait dans un igloo. Foutu baraque !» Puis voyant la mine de Mrs. Blocksby, elle ajouta « Pardonnez mon langage. » « C'est le risque quand on est femme de pasteur, » répondit Mrs. Blocksby sans se troubler. « On a de furieuses envies de jurer, de hurler ou de se saouler. » « Je vois que vous me comprenez. Oh, voici mon époux, Rory. » Molly fit les présentations. Rory regarda Agatha avec curiosité.
Je croyais que les détectives privés étaient plutôt du genre, peu soignés.
Je suis l'exception qui confirme la règle, répondit Agatha gaiement. Alors d'après vous, elle s'est suicidée, Miss Darby?
Je pense, oui. Pourtant, ma conscience me taraudrait moins si elle avait été assassinée. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que nous aurions dû remarquer quelque chose.
Si je vous ai rendu visite, Sarah, puis-je vous appeler Sarah? Oui, Mrs. Raisin et moi-même sommes englués dans nos vieilles habitudes. Si je vous ai rendu visite, donc, c'était pour savoir si Miss Darby avait de la famille. Oh oui, je crois qu'elle a une sœur, Laura. Elles sont jumelles, il me semble. D'après ce que j'ai entendu, elles ont eu une grosse dispute il y a quelques mois à la vente de charité d'Ancombe, juste devant un stand de bibelots.
Et cette Laura, savez-vous où elle vit? Demanda Agatha.
Non, mais je peux sûrement trouver.
Mrs. Raisin,
commença Rory. Agatha, je vous en prie.
Eh bien, Agatha, à ce stade, c'est un peu prématuré pour aller fureter partout.
Oh, chérie, laisse-la faire, gémit Molly. Je veux savoir ce qui a poussé Miss Darby au suicide.
Nous ne pouvons pas nous offrir les services d'un détective privé. Il ne vous en coûtera pas un penny, dit Agatha. Je suis curieuse, voilà tout.
Bonjour, bonjour,
s'éleva une voix enjouée dans le couloir.
Devinez qui voilà!
Oh non, c'est la sangsue de Sumpton Harcourt, Felicity Ware. Je vais me débarrasser d'elle. Trop tard. La porte du bureau s'ouvrit, laissant apparaître une femme élancée aux cheveux blonds cuivrés. Ses pieds et ses mains étaient d'une longueur invraisemblable. Elle avait des jambes comme des cannes prolongées par des talons aiguilles et un visage aux traits affaissés sous une épaisse couche de maquillage.
Oh, le vilain pasteur! Les dames de la paroisse tombent comme des mouches depuis que vous êtes là!
Dit-elle en entrant.
Rory la prit par le bras et la fit sortir du bureau. « Il faut vraiment nous excuser, mais ma femme est encore sous le choc, la pauvre. »« Non, vraiment, passez à un autre moment et sonnez avant d'entrer. J'aurais pu vous prendre pour un cambrioleur et vous tuer. »
Felicity descendit la petite allée d'un pas mal assuré et tomba sur l'agent Turrette qui arrivait juste au portail du presbytère. Guidée par son éternel besoin d'être sur le devant de la scène, elle s'accrocha à lui et dit
« J'ai peur, le pasteur a menacé de me tuer !»«
Ne bougez pas !» répondit Turrette. Voilà qui justifiait de traîner l'arrogant pasteur au poste pour interrogatoire. Une nuit en cellule le ferait descendre de son piédestal.
L'agent Turrette, d'ordinaire avisé, allait bientôt se rendre compte qu'il avait commis une terrible erreur. Pour commencer, cette foutue détective, Agatha Raisin, fit apparaître, comme par enchantement, un avocat en droit pénal. Et puis, il avait sous-estimé cette bonne vieille église d'Angleterre qu'il considérait comme une institution surannée où les coussins prie-Dieu prenaient la poussière. L'évêque et son chanoine n'allaient pas laisser un des leurs se faire malmener de la sorte et le firent savoir en termes on ne peut plus clairs à l'inspecteur divisionnaire Wilkes au moment même où celui-ci apercevait au-dessus de l'épaule violette de l'évêque de Merchester la presse qui se rassemblait devant le commissariat. « L'œuvre de Mrs. Raisin à n'en pas douter » soupçonna-t-il et a raison. Rory fut libéré non sans recevoir les plus plates excuses de Wilkes, qui réprimanda Turrette si vertement que celui-ci vit s'évanouir tous ses rêves de carrière. 2 semaines de suspension, voilà ce qui lui en coûta. Alors qu'il quittait le commissariat animé d'une haine encore plus farouche à l'égard de Rory et d'une furieuse envie d'étrangler Agatha, Turrette vit Bill Wong se diriger vers le bureau de Wilkes. Poussé par la jalousie que lui inspirait la familiarité entre Bill et Alice, il décida d'écouter à la porte.
« C'est une sale affaire, » dit Wilkes. D'après l'autopsie préliminaire, il semble que la victime était déjà morte quand elle a été hissée en haut de l'arbre. Oui, on dirait bien qu'il s'agit d'un meurtre déguisé en suicide. La sœur arrive pour identifier le corps. Interrogez-la. Était-elle originaire du village ou d'ailleurs, lui connaissait-elle des ennemis ?
Turrette entendit quelqu'un approcher et s'éloigna d'un pas vif. Si seulement il pouvait résoudre le meurtre. Il attendrait dans sa voiture jusqu'à ce que la sœur quitte les lieux. Peut-être pourrait-il lui proposer d'aller boire un verre. 10 minutes plus tard, une voiture de police entra dans le parking. Alice Peterson descendit avant d'en faire le tour pour ouvrir l'autre portière arrière. Une femme mince, la soixantaine, apparut. Sûrement la sœur. Songea Turrette. Ils vont la reconduire tout à l'heure. Je n'aurais qu'à les filer. Au bout d'un moment qui lui parut interminable, Alice ressortit du commissariat avec la femme et Turrette, pas mécontent d'avoir son véhicule personnel, les suivit à bonne distance. Alice s'arrêta devant l'hôtel George. Turrette réduisit l'allure et profita de l'éclatant éclairage du hall pour bien regarder la femme avant de rejoindre le parking de l'hôtel à l'arrière. Avec son manteau de loutre démodé et son chapeau de feutre, elle semblait tout droit sortie d'un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale. En revenant lentement à pied vers l'entrée, il vit la voiture d'Alice tourner et disparaître. Il alla jusqu'à la réception, décidé à demander le nom de la femme au manteau de fourrure, mais l'aperçut en jetant un œil sur la droite. Elle était assise au bar. Il surgit près de sa table, lui arrachant un petit cri de surprise.
« Je viens juste de parler à la police, » dit-elle. « Que voulez-vous ? » ?»«
Bavarder un instant, rien de plus. »
Turrette s'assit en face d'elle et appela le serveur d'un geste de la main.
« Qu'est-ce que vous prendrez ?»
Elle commanda un double brandy. Turrette prit la même chose. D'un œil averti, il observa son visage au vin et s'arrêta sur ses mains. Pas d'alliance. Les effluves d'un parfum coûteux flottaient autour d'elle. Elle se débarrassa de sa fourrure, laissant apparaître une robe noire toute simple, ornée d'une grosse broche en diamant étincelante. Turrette cligna des yeux. En vendant ce bijou, elle aurait pu s'acheter 2 ou 3 visons. Il se présenta, lui offrit ses condoléances et lui demanda son nom.
« Je m'appelle Laura Darby. »
« Célibataire ? » ?»«
Le mariage, j'ai donné, on ne m'y reprendra plus. »
« Combien de fois ?»«
3 ».
Les boissons arrivèrent. Les femmes riches ont un privilège que n'ont pas leurs sœurs plus jolies, songea Turrette. Elles peuvent choisir, à l'image de ces hommes d'affaires petits, gros et laids, que l'on voit aux bras de blondes éblouissantes. Il leva son verre.
Santé ! À des jours plus heureux !
Tout à coup, il eut une illumination.
Si Margaret Darby avait autant de fortune que sa sœur, alors peut-être avait-on essayé de lui extorquer de l'argent. À moins qu'elle n'ait déjà cédé et qu'elle n'ait plus voulu payer.
Votre sœur était-elle à l'aise financièrement?
Oui.
Quelqu'un l'avait-il après son argent?
Je l'ignore. Nous étions fâchés à cause de cette broche. D'après elle, maman la lui avait laissée. Mais c'est à moi qu'elle l'a laissée. Alors j'ai dit à Margaret, hors de question que je te la donne.
Était-elle mariée?
Non, mais au téléphone la semaine dernière, elle a laissé entendre qu'elle le serait bientôt. Elle a même dit que si je ne lui remettais pas la broche, elle ne m'inviterait pas à son mariage.
L'ennui, quand on est un simple policier, se dit Terrette avec amertume, c'est qu'on n'est jamais mis au courant de rien. Cela dit, s'il pouvait s'introduire dans la maison de Margaret Darby, il trouverait peut-être quelque chose sur cet homme. Des indices qui auraient pu échapper aux inspecteurs et aux techniciens de la scientifique. Laura se leva et mit son manteau sur son bras.
« Je suis très fatiguée. Bonsoir.
Je pourrais vous trouver ici demain ?»«
Non, je vais rentrer chez moi jusqu'au jour où je me sentirai capable d'entrer chez cette pauvre Margaret et de passer ses affaires en revue. »«
C'est vous qui héritez de ses biens ?»«
Bonsoir !»
Terrette se leva et lui prit le bras.
« Encore deux ou trois questions ?»
De ses yeux pâles, soudain pétillant d'intelligence, elle lut son matricule.
« Dès que je serai dans ma chambre, je vais téléphoner au commissariat central et leur demander pourquoi vous êtes ici et à quel titre vous m'interrogez. »
Terrette se décomposa.
« Nous n'avons fait que discuter gentiment.
Vous allez en entendre parler, croyez-moi !»
Elle s'éloigna d'un pas altier, laissant Terrette jurer dans sa barbe.
Il pourrait toujours prétendre s'être arrêté au Georges pour boire un verre, l'avoir reconnu et avoir décidé de glaner d'éventuelles informations utiles.
Rien n'obligeait Laura Darby à répondre à ses questions, après tout.
Il se répéta tout cela, dans sa tête, jusqu'à ce qu'il commence à se détendre. De toute façon, son air de dadame arrogante hérisserait Wilkes.
C'était décidé. Il irait chez Margaret Darby. Alors qu'il quittait le bar, le serveur l'arrêta en disant
« Votre note, monsieur !» Mettez ça sur le compte de Miss Laura Darby, mon vieux.
Si étrange que cela puisse paraître, les policiers sont souvent des créatures sensibles qui s'ignorent. Ils enfouissent leurs émotions sous une épaisse carapace d'agressivité et développent leur propre système radar, indispensable pour identifier les menteurs ou dissimulateurs. Ainsi, quand Terrette descendit de voiture et se dirigea vers le cottage au toit de chaume de Margaret Darby, il sentit comme une menace dans l'air. À côté du portail, un écriteau sur lequel le nom de la maison I am home avait été pyrogravé. Terrette pesta intérieurement lorsqu'il aperçut le bout rougeoyant d'une cigarette dans l'obscurité.
Qui va là?
Demanda-t-il.
Vous, qui êtes-vous? Agent Terrette. Ah, oh, c'est toi, vieux furet, répondit l'agent clapeur en approchant. Une petite pause? Ah, carrément, mon pote. Je vais te dire, cette baraque, moi, elle me fiche la trouille. Je peux te remplacer une petite heure, si tu veux.
Super, je te revaudrai ça.
Terrette attendit que Clapper s'éloigne dans un vrombissement de moteur, puis emprunta l'allée éclairée par la seule lumière d'un réverbère situé non loin du portail. La porte d'entrée était barrée d'un ruban jaune. Terrette fit le tour du cottage au toit de chaume. Il détestait ces habitations typiques de la région. Elle lui faisait penser à des bêtes sombres et menaçantes.
Il trouva la porte de la cuisine, également condamnée, contrairement à la fenêtre adjacente, qu'il força avec son couteau, guettant nerveusement une alarme anti-intrusion.
Il enfila une paire de gants en latex et se hissa à l'intérieur, faisant tomber un verre laissé sur l'égouttoir de l'évier au passage. Couvert de sueur, il laissa échapper un juron, prêt à l'oreille, mais n'entendit rien d'autre que le vent. Sortant une lampe crayon, il balaya la pièce de son faisceau de lumière tout en descendant du plan de travail. Il sortit de la cuisine, longea un couloir étroit et se retrouva dans une entrée carrée suffisamment éclairée par la lumière du réverbère extérieur qui filtrait par les carreaux de la porte pour qu'il éteigne sa lampe. Il ouvrit une porte sur sa gauche. La pièce était remplie de bric-à-brac. Des photos dans des cadres argentés, des bibelots en porcelaine, le tout disposé sur des tables à l'aspect fragile. Puis, dans un renfoncement obscur de la pièce, il distingua un bureau à cylindre démodé.
« Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver ?»
fit-il en se penchant sur le bureau. Soudain, il sentit une présence derrière lui.
Faisant volte-face, il prit un verre d'ammoniac en plein visage. Il hurla. Puis, un objet lourd s'abattit sur sa tête. Il s'effondra sur le sol. En revenant au cottage, l'agent Clapper vit que la voiture de Torette n'était plus là. Il poussa un soupir de soulagement. Il n'aimait pas beaucoup l'agent Torette et n'avait aucune confiance en lui. D'après la rumeur, il prenait un malin plaisir à découvrir les vilains secrets des gens pour ensuite leur mener la vie dure. Clapper rota et fit la grimace. Ce hamburger mexicain sauce piquante qu'il avait mangé au resto-route, ce n'était peut-être pas la meilleure idée. Devant lui, la surface de l'étang ondulait et miroitait sous le faisceau de lumière blanche du réverbère qui courait jusqu'à l'arbre des sorcières situé sur la rive opposée. Clapper regarda attentivement. Il y avait quelque chose en haut dans les branches les plus éloignées, quelque chose qui renvoyait des lueurs blanches. « Satané gosse, » dit-il tout bas, « s'ils ont touché à une scène de crime, enfin, ces crimes il y a eu, ils vont m'entendre. » Il détacha sa lampe de poche de son ceinturon et l'alluma. L'arbre semblait enjamber la route d'accès au hameau, mais en réalité, il se trouvait sur sa gauche. Clapper marcha jusqu'à l'arbre et fit le tour de son énorme tronc noir, puis, levant les yeux, vit une masse se balancer sous l'effet du vent. Il l'éclaira, reconnut un uniforme de policier et d'effroi fit tomber sa lampe. « Allons, du nerf !» songea-t-il en la ramassant. Puis il la braqua sur la silhouette d'une main tremblante. La tête était couverte d'un plastique blanc. Il appela les secours. Rory Harris, qui revenait d'une visite tardive, arriva au volant de sa voiture. « Qu'est-ce qui se passe ? » cria-t-il. « Je crois que c'est l'agent Torette qui pend là-haut, mais il est hors de portée. « Je vais grimper !» fit Rory. « Il est peut-être encore en vie !» Rory s'agrippa sans mal aux épaisses branches nues et chercha son pouls. En vain. « Il est mort !» constata-t-il. « Laissez le corps là où il est !» fit Clapper. « C'est une scène de crime !» Molly Harris s'était sentie coupée du monde, comme enfermée à double tour dans l'hiver des Cotswolds. Mais voilà qu'à présent, la terre entière, sous la forme d'une horde de journalistes, certains arrivant même du lointain Japon, était venue jusqu'à elle. La mort d'un policier dans une grande ville n'aurait pas suscité grand intérêt. Mais celle d'un agent trouvé pendu à un chêne baptisé l'Arbre des Sorcières, où l'on avait déjà trouvé un autre corps, ne pouvait qu'intriguer la presse. Elle mettait désormais ses vêtements les plus miteux et les plus démodés, car le jour de l'invasion des médias, elle était allée faire des courses au village avec une jupe courte et des talons hauts, et avait eu la très mauvaise surprise d'apprendre par son mari le lendemain qu'elle faisait la une du Sun. Quand Agatha Raisin lui rendit visite, elle n'en fut pas mécontente, car elle était terrorisée. Sa femme de ménage, une certaine Mrs. Double, lui avait révélé l'existence d'une assemblée de sorcières dans le village, mais s'était refermée comme une huître lorsqu'elle avait voulu en savoir plus. « Je peux vous offrir quelque chose ?» demanda Molly. « À vrai dire, je veux bien un gin tonic et un cendrier. Allez-y, ne vous gênez pas pour me faire la leçon, ensuite on pourra discuter. » Molly lui sourit de toutes ses dents, posa un grand cendrier en verre devant elle, prit une bouteille de gin dans un placard et une canette de tonic dans le réfrigérateur. « Je n'ai pas de glaçon. »« Inutile !» fit Agatha. « On gèle dans cette cuisine. Votre cuisinière à bois ne fonctionne pas ?»« Elle est capricieuse et gourmande en allume-feu. Il en faut un bon paquet avant qu'elle tire correctement. Pour l'instant, le tirage est faible. »« Vous avez de l'alcool que vous n'aimez pas quelque part ?» « Je veux dire, le genre de torboyau qu'on achète quand on joue les touristes. »« Oui, on a une bouteille de brandy espagnole. Donnez-la-moi. » Molly prit la bouteille sur une étagère haute, Agatha la déboucha, ouvrit le foyer de combustion et versa un bon tiers du brandy sur les braises. Aussitôt, les flammes jaillirent, faisant reculer Agatha d'un bond. « Et voilà !» dit-elle d'une voix haletante. « Ça marche toujours du feu de Dieu. Il n'y a pas pire bois sans soif que ces vieux poêles à bois. » Elle parvint à refermer le foyer. Déprimante, cette cuisine, songea-t-elle. Sur les murs, une peinture qu'on aurait pu qualifier de jaune soufre. Dans les coins du plafond, des toiles d'araignées et un vieil étendoir en bois sur poulie qui se balançait dans l'ombre. Agatha regarda la femme du pasteur et se demanda si Molly, qui semblait dépourvue de toute vanité, savait combien elle était belle. Elle pensa à son ami, Charles Fraisse, qui avait encore disparu dans la nature. Trouverait-il Molly attirante ?
Ma femme de ménage dit qu'il y a une assemblée de sorcières dans le village, l'informa Molly.
Mrs. Blacksby m'en a parlé aussi. Mais c'était il y a belle lurette. Dans les années 1950, le Picture Post a publié une photographie de ces femmes dans leur plus simple appareil. Entre nous, ça pendait de partout. Elles furent la risée du Gloucestershire. Fin de l'histoire. L'arbre a été baptisé l'arbre des sorcières parce qu'il a pris la foudre et n'a plus jamais développé de feuilles.
Mais dites-moi, pourquoi avoir épousé un pasteur ?
Par amour, voilà tout.
Par amour,
répéta Agatha d'une voix triste.
Eh bien.
Elle alluma une cigarette et regarda la fumée monter jusqu'au plafond défraîchi.
Bon, je voudrais bien vous aider, mais je dois gagner ma vie, moi. Et je ne vois pas qui va faire appel à mes services pour élucider ces meurtres.
Je suis très déçue par les Cotswolds. Je croyais trouver ici des éleveurs d'agneaux qui font de la danse folklorique dans un décor bucolique. Mais la région est humide, froide et tellement isolée.
Agatha Christie s'est bien moquée de nous.
Ses intrigues se situent en ville ?
Oui, mais prenons Miss Marple. Elle a l'esprit de village. Et justice est toujours faite.
Je viens d'avoir une idée. Finissez votre verre, je vais vous présenter l'homme le plus rasoir du comté.
Lorsque Molly et Agatha sonnèrent à sa porte, Sir Edward Chumble broyait du noir. Il avait appelé les rédacteurs en chef de plusieurs journaux pour leur donner son point de vue sur les meurtres, et tous l'avaient consciencieusement ignoré. Il était ensuite allé sur la scène de crime à la rencontre des enquêteurs pour les faire bénéficier de ses lumières. Mais s'était entendu ordonner par l'inspecteur divisionnaire Wilkes de déguerpir.
Sa femme étant dehors à présider un comité quelconque, elle avait toujours trouvé le moyen de se faire nommer présidente quelque part, y compris dans cette ancienne république soviétique que seul Poutine n'avait pas oubliée. Songea-t-il, il alla ouvrir lui-même. Il reconnut Molly. Elle ne correspondait pas du tout à l'idée qu'il se faisait de l'épouse d'un pasteur.
Trop audacieuse et trop glamour. Sans compter qu'elle ne lui montrait pas la déférence à laquelle il estimait toujours avoir droit.
L'autre femme, qu'il ne connaissait que de nom, portait des vêtements de prix. Son goût pour les choses féminines ne le trompait jamais. Il avait envisagé de l'inviter à son dîner, mais après avoir mené sa petite enquête sur Internet, il avait jugé qu'elle déborderait d'assurance et manquerait de féminité.
À présent qu'il l'avait en face de lui, il la trouvait plutôt attirante en dépit de ses yeux trop petits.
Agatha est très occupée, poursuivit Molly après avoir fait les présentations. Mais je lui ai dit, vous devez absolument rencontrer Sir Edward. C'est un homme très intelligent, ancien ambassadeur de surcroît.
Ainsi vous enquêtez sur ces meurtres, Mrs. Raisin.
Agatha, je vous en prie, répondit-elle avec un sourire qu'elle espérait engageant, mais qui ressemblait davantage à une grimace.
Eh bien, je suis détective privé, c'est mon métier, alors je me suis engagée à procéder à deux ou trois vérifications pour faire plaisir à Molly, mais je ne peux pas continuer à négliger mes autres affaires. Mais vous obtenez de très bons résultats, n'est-ce pas ?
Excellent,
confirma aussitôt Molly.
Je suis déçue par notre police, indignée même. Je pensais qu'il serait content de bénéficier de mon aide, mais cet inspecteur Wilkes s'est montré on ne peut plus dédaigneux.
Fidèle à lui-même, dit Agatha. Sir Edward resta silencieux. Le tic-tac régulier d'une pendule se fit entendre tandis que le vent de novembre sifflait dans le toit de chaume. Une bûche craqua dans l'âtre. Agatha l'observait sans aménité.
« Quel imbécile prétentieux » pensa-t-elle. Ses cheveux gris se clairsemaient. Son grand nez barré de petites veines rouges dominait son visage dont les pores étaient dilatés. Elle attrapa son sac à main.
Quels sont vos tarifs ?
Demanda-t-il. Agatha les lui indiqua, non sans les avoir multipliés par deux. Puis glissa.
Évidemment, pour les amis, je les diminue de moitié.
Ah, mais dites-moi, je suis votre amie, n'est-ce pas ?
Vous allez vite en besogne, répondit-elle avec un rictus.
Sir Edward ne laissa rien paraître de l'antipathie soudaine que lui inspira Agatha. Ce qu'il voulait, c'était qu'elle trouve le meurtrier et qu'elle le laisse en cueillir les lauriers.
« Il me semble qu'il est de mon devoir de faire un geste pour la communauté locale, » dit-il. « Je souhaiterais vous engager pour découvrir qui commet ces crimes ignobles. »«
Dans ce cas, je vous enverrai quelqu'un pour que vous signiez les papiers. »«
Je n'ai pas des mille et des cent, » s'empressa-t-il d'ajouter. « Je veux dire, combien de temps allez-vous y consacrer ?»«
Je ne sais pas. Écoutez, je vais faire mon maximum pendant, disons, 6 semaines.
Et si je n'ai pas résolu l'affaire d'ici là, je vous donnerai tout ce que j'aurai trouvé. »
Sir Edward plissa les yeux, s'imaginant appuyé au manteau de la cheminée devant une foule de journalistes.
« Messieurs, je vais à présent vous révéler l'identité du meurtrier. »
« Eh voilà !» dit Agatha à Mrs. Blugsby le soir même. « C'est Molly qui en a eu l'idée après que son mari Rory lui a raconté comment la police s'était débarrassée de ce bon vieux Sir Edward. Leur mépris l'a tellement vexé qu'il y avait fort à parier qu'il m'engagerait pour prendre sa revanche. Je suis ravie car cette affaire me fascine. Mais franchement, qui s'intéresserait à un crime juste pour soigner son égo ?»«
Vous, par exemple, » songea la femme du pasteur qui n'avait pas oublié la première enquête d'Agatha. Elle garda néanmoins ses réflexions pour elle et la prévint. Il y a toujours eu une atmosphère exécrable dans ce village. On pratique encore la sorcellerie dans certains coins des Cotswolds.
Les grands mots. Si vous voulez mon avis, ces soi-disant sorcières sont simplement des peaux de vache en robe noire. Je vous laisse, il faut que je dorme.
Mais tandis qu'elle traversait le village au milieu des tourbillons de feuilles mortes, Agatha prit soudain conscience du sentiment de danger qui régnait dans la nuit. Elle accéléra le pas et courait presque au moment où elle arriva devant chez elle. La lumière était allumée dans son salon. Elle tourna la tête et aperçut la voiture de Charles Fraisse garée à quelques mètres. Elle poussa un soupir de soulagement et se précipita à l'intérieur. Charles se redressa sur le canapé.
« Tu as l'air terrifié, que se passe-t-il ? »
Agatha secoua la tête comme pour se remettre les idées en place.
« Trop plein d'imagination. Serre-moi un gin tonic. »
Elle but une première gorgée, puis observa Charles par-dessus son verre. Comme à son habitude, il était impeccablement coiffé, rasé et habillé. Le seul homme qui pouvait déambuler en tenue d'Adam au saut du lit en ayant l'air de porter un costume sur mesure, songea Agatha. Elle laissa échapper un petit soupir et commença à lui parler des corps trouvés pendus à l'arbre des sorcières pour finalement lui annoncer. « Un certain Sir Edward Chumble m'a engagé pour découvrir qui a fait ça. »
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ces deux meurtres ?
Je crois qu'il se prend pour le châtelain local. Il espère probablement que je trouve le coupable pour ensuite se faire passer pour le détective du siècle.
Tout cela n'explique pas la tête que tu faisais en arrivant. On aurait dit que tu avais le diable à tes trousses.
Je suis allée rendre visite à Mrs. Blugsby et en revenant du presbytère, j'ai eu l'affreuse impression que quelque chose me suivait.
Comme un voyageur qui, dans un chemin solitaire, marche escorté par la peur et l'effroi, parce qu'il sait qu'un ennemi terrible lui ferme la route par derrière,
récita Charles.
Coleridge, mais j'ai peut-être oublié un morceau.
C'est agaçant, cette habitude de me sortir des citations à tout bout de champ, dit Agatha avec colère. C'est juste un moyen de se faire mousser.
Je t'accompagne demain, il faut m'en dire davantage. De quoi a-t-il l'air, ce pasteur?
Beau garçon. Genre rugbyman. Sa femme est très jolie.
Il revenait d'un dîner, c'est bien ça? C'est peut-être un alibi suffisant. Comment voulez-vous que j'ai commis un meurtre, monsieur l'agent? Je dînais avec Sir Edward.
Molly avait l'air de penser que Margaret Darby a été tuée ailleurs.
Bien sûr, il est toujours possible que l'enquête conclue un suicide. Mais toujours d'après Molly, la victime portait des talons hauts, avec lesquels elle n'aurait pas pu grimper à l'arbre, d'autant que les branches étaient mouillées et glissantes.
Donc, personne ne peut se servir de ce dîner comme alibi.
On dirait bien, en effet. Je dois d'abord me rendre au bureau demain. Je vais envoyer Tony chez Chumble pour qu'il signe son contrat et demander à Patrick qu'il se rapproche de ses contacts dans la police pour savoir ce que l'autopsie a révélé.
Charles se leva et bâilla.
Je vais me coucher. Tu viens ?
Dans un instant. Vas-y, toi.
Quelques minutes plus tard, Agatha monta lentement, se demandant si Charles se serait installé dans la chambre d'amis ou l'attendrait dans son lit. Mais elle trouva sa chambre vide. Cette nuit-là, elle ne fut pas mécontente de ne pas être seule chez elle, car un vent froid siffla tout autour du cottage et des bruissements étranges se firent entendre dans le chaume. Allongé sur son lit, Charles lisait un roman d'espionnage. Tout à coup, un murmure inquiétant emplit la pièce.
« Fille, la mort approche. La mort !»
Charles se précipita en bas sans bruit pour prendre un paquet d'allume-feu qu'il trouva près de la cheminée du salon. Il retourna à l'étage, vida son contenu dans l'âtre de la chambre et craqua une allumette.
Les flammes envahirent le foyer dans un souffle, produisant une fumée âcre. Il entendit quelqu'un glisser de la toiture et, oubliant qu'il était nu comme un ver, courut dehors. Dans le jardin de derrière, personne. Il fit le tour du cottage. Le portail était grand ouvert. Au bout de la rue, une silhouette sombre s'éloignait. Il se lança à sa poursuite, mais arrivé à l'intersection, le seul être visible était le pasteur Alf Blugsby, qui lui jeta un regard noir.
« Mais enfin, habillez-vous !»«
Vous n'avez croisé personne ?» demanda Charles.
« Quelqu'un est grimpé sur le toit d'Agatha !»«
Non, personne! Pour l'amour du ciel, monsieur, couvrez-vous !»«
Avec quoi, très cher? Des feuilles de lilas ?»
Sur quoi, il tourna les talons, offrant au pasteur outré une vue imprenable sur son postérieur éclairé par les lampadaires.